L'Iran s'éloigne encore un peu plus de l'Europe. Deux compagnies, Air France et British Airways, vont cesser cette semaine de desservir Téhéran. C'est la conséquence des sanctions américaines rétablies par Donald Trump. Bonjour Ardavan Amir Aslani.
Bonjour madame.
Vous êtes né en Iran, un pays que vous avez quitté à 14 ans lors de la révolution islamique. Aujourd'hui vous êtes essayiste, vous avez écrit plusieurs livres sur l'Iran, vous êtes aussi avocat. Vous défendez les intérêts de plusieurs gros groupes français, vous avez aidé les entreprises du CAC 40 qui souhaitaient s'implanter en Iran. Cette décision de ces deux compagnies, mais il y en a eu d'autres, hein, Air France et British Airways, ça veut dire que les États-Unis ont gagné ?
C'est incontestable que les États-Unis, en tout cas, ont gagné une manche. Vous avez dit Air France, British Airways, mais il y a aussi KLM, et encore pire, je dirais, les États-Unis ont considéré que l'espace aérien iranien est dangereux pour les compagnies internationales. Donc bientôt, on va avoir carrément aucun vol qui va pouvoir atterrir sur l'Iran.
Une entreprise aujourd'hui ne peut pas se permettre de se priver du marché américain ? Parce que c'est ça ce que dit Donald Trump, c'est il faut choisir ou vous faites du commerce avec l'Iran ou avec les États-Unis, mais pas les deux.
Il a bien raison, le marché américain est 50 fois plus important que le marché iranien. Quelle entreprise accepterait d'aller en Iran, perdre l'accès au marché américain et par la même occasion se soumettre potentiellement à des sanctions américaines qui vont être totalement en décalage par rapport à la réalité de l'infraction. Je vous rappelle l'affaire de la BNP Paribas. Une infraction commise certes, mais 9 milliards 200 millions de dollars d'amende. C'est totalement décalé. Et c'est ça la puissance américaine. L'Europe d'ailleurs est totalement incapable d'agir par rapport à ça. Rappelez-vous les 4 initiatives que l'Union européenne a envisagé de transposer sur la question iranienne. La création d'un OFAC européen, la mise en place des fameuses lois de blocage, la création d'un fonds qui assurerait le financement de projets des entreprises en Iran, des demandes de dérogation adressées au ministre des Affaires étrangères américain permettant au grand champion français d'agir en Iran. Aucune de ces initiatives n'a abouti. L'ensemble des grands groupes français ont quitté le pays. Total, PSA, Vinci, même Renault.
Il ne reste plus personne.
Il ne reste plus personne. Peut-être la boulangerie qui envisage de vendre des baguettes en Iran demeure, mais globalement, les grosses entreprises
sont parties.
Internationales ont quitté le pays. Même s'il n'y avait pas la question américaine, vous avez aujourd'hui la question des transactions financières. Même si vous êtes une petite PME française avec un désir réel d'engager le marché iranien, vous n'arriverez pas à vous faire payer. Puisque le système bancaire international refuse aujourd'hui d'assurer des transactions portant sur le dollar et l'euro. Conséquence des sanctions américaines.
Donc il est impossible de contourner ces sanctions.
Aujourd'hui, littéralement impossible. Je vais vous donner un exemple. Il y a à Paris une petite banque qui s'appelle la banque Wormser, qui est une banque française totalement agréée, Banque de France. Cette banque-là, parce qu'elle a accepté à un moment de travailler avec l'Iran, aujourd'hui, tous les virements provenant de cette banque sont même rejetés par les autres banques françaises à Paris, sous prétexte qu'il y a une présomption de connexion avec l'Iran. La pression américaine est totale. Et aujourd'hui, le gouvernement Rouhani est mal. C'est un gouvernement qui a promis, en fait, au peuple iranien que leur sort au quotidien allait être amélioré à l'issue de l'accord nucléaire du 14 juillet 2015. Et dans la pratique, on constate que pas grand-chose n'est intervenu.
Est-ce que ces sanctions qui ont été rétablies seulement, j'allais dire, au printemps dernier, est-ce qu'elles se ressentent déjà sur l'économie iranienne ?
Bien sûr. Je donne un exemple. J'étais moi-même à Téhéran le 1er septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 17. En l'espace de 14 jours, la monnaie iranienne a perdu 25% de son pouvoir d'achat. Les entreprises iraniennes ont les plus grandes difficultés à se procurer les matières premières. Même le guide suprême de la révolution iranienne, Ayatollah Khamenei, a déclaré sur les ondes qu'on n'arriverait plus à trouver de couches pour les bébés du fait de l'impossibilité d'importer les matières premières. Les Iraniens, globalement, sont vraiment déprimés et effectivement, il y a un grand climat d'incertitude qui pèse non seulement sur l'avenir économique du pays, mais également sur l'avenir politique régional.
Alors, on va revenir sur l'aspect politique, mais j'aimerais rester encore un petit peu sur l'aspect économique. D'autant qu'il y a une nouvelle vague de sanctions qui va arriver début novembre. Et là, ça va toucher à ce qui va blesser l'Iran plus que tout, c'est le secteur du pétrole.
C'est le secteur énergétique dans son ensemble qui, le 4 novembre prochain, fera l'objet de la deuxième vague de sanctions américaines, mais également la banque centrale iranienne. Mm-hmm. Ce qui va encore davantage rendre quasi impossible les transactions financières sur l'Iran.
C'est catastrophique parce que la richesse de l'Iran tient aussi à son pétrole et à son gaz.
90% des ressources du pays viennent des exportations pétrolières et d'autres ressources énergétiques et d'hydrocarbures. Mais la réalité, c'est que le marché a d'ores et déjà constaté une baisse de la production iranienne. Mmh. En marge de la conférence internationale de Saint-Pétersbourg, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et la Russie ont pris la responsabilité de pourvoir au remplacement d'1 200 000 barils jour parce que l'Iran ne pourra pas les exporter derrière. L'Iran a exporté au mois d'avril dernier 3 millions de barils par jour. Au mois d'août, ce chiffre a été ramené à 2 millions. C'est-à-dire qu'il y a eu une baisse d'un tiers. Mmh. La Corée du Sud et le Japon aujourd'hui hésitent pour placer des commandes qui vont aller au-delà du mois de novembre. Et que va devenir l'Iran une fois que les sanctions américaines sur le pétrole seront transposées?
Vous nous disiez tout à l'heure que l'Union européenne et la France notamment, voilà, ne résistaient pas aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des pays qui résistent aux États-Unis? Je sais pas, je pense à la Chine ou à la Russie qui sont pas les meilleurs amis du monde avec Donald Trump. Est-ce qu'ils essayent ou pas du tout? Ils cèdent aussi?
Les proclamations rhétoriques sont là, mais dans la pratique, les Russes eux-mêmes font l'objet de sanctions américaines. Et leur espoir avec Donald Trump, c'est de réintégrer le groupe du G8. C'est-à-dire, les Russes n'ont pas de quoi répondre aux besoins du marché iranien. Les Chinois, pour leur part, regardent les États-Unis comme étant leur principal marché, avec 400 milliards de dollars par an. En plus, ils détiennent 1000 milliards de bons de trésor américains. Qui a aujourd'hui l'indépendance nécessaire d'agir? Même l'Europe est divisée. Vous avez certes l'Europe occidentale, mais les pays de l'Est européen comme la Pologne, les pays baltes ne regardent pas d'un bon œil l'attitude assez hostile de l'Union européenne de Bruxelles vis-à-vis de Washington. Parce que ces pays-là se souviennent qu'à un moment où ils en avaient besoin, il y avait surtout l'Amérique qui était présente. Donc cette unité politique est également absente au sein de l'Europe.
Comment le régime iranien gère cette crise?
Très mal, très mal. Il faut savoir que l'économie iranienne, de toute façon, globalement, était mal gérée. Je vous rappelle que McKinsey avait sorti un rapport le lendemain de l'accord nucléaire, annonçant que le marché iranien allait recevoir 1000 milliards de dollars d'investissement sur les 20 prochaines années. Si vous transposez ça sur les 3 années qui nous séparent, de juillet 2015, date de signature de l'accord, à la date d'aujourd'hui, l'Iran n'a même pas reçu 5 milliards. Le gouvernement iranien est particulièrement mal, parce qu'il a engagé sa crédibilité, sa légitimité sur le principe de permettre aux Iraniens d'améliorer leur sort au quotidien. Mmh. Et bien, on constate aujourd'hui que les seules promesses tenues, ce sont les promesses qui portent sur les restrictions systématiques des libertés publiques et le chômage.
Est-ce que les sanctions américaines peuvent servir au régime de bonne excuse, justement, pour expliquer les mauvais résultats? Ah, c'est pas de notre faute, c'est de la faute de Trump.
C'est l'argumentaire employé par le gouvernement aujourd'hui.
Et c'est vrai ou pas?
Oui, pas totalement. Parce que quand on regarde, l'Iran malheureusement figure parmi les pays les moins respectés en matière de lutte contre la corruption. L'Iran figure dans les derniers 10% à l'échelle planétaire. Il y a énormément d'erreurs de gestion que le gouvernement ne cesse de commettre dans le domaine de la gestion des différentes crises économiques et de l'industrie. On peut, je pense, attribuer les sanctions américaines comme étant responsables d'un tiers des difficultés de l'Iran, mais pas de la totalité de ses difficultés.
Ardavan Amir Aslani, je le disais en introduction, vous êtes avocat, vous avez un bureau à Téhéran. Comment vous allez faire pour aller là-bas quand il n'y aura plus d'avions?
Écoutez, aujourd'hui,
Vous avez continué à travailler en Iran?
Je vais continuer à travailler en Iran, je continue d'y aller. J'ai 2 expatriés français avocats qui sont placés en Iran. Je me suis toujours dit qu'il fallait que j'ai un comportement autre, parce que je suis aussi iranien que ceux qui ont quitté le pays. Et je pense qu'il faut quand même tendre la main aux Iraniens, malgré les difficultés que ce pays-là rencontre à ce stade.
Merci beaucoup Ardavan Amir Aslani d'être venu ce matin sur France Inter. Vous étiez l'invité du 5-7.